BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom. Cette semaine avec Laurent Lachaud, directeur commercial et des partenariats d'ASO, on va faire le point sur le marketing sportif puisque ASO est l'organisateur du Schneider Electric Marathon de Paris. Et puis avec Hélène Capgras, fondatrice de Brain for Beauty, et Emmanuel Ferry, directeur général d'Ogilvy Paris, on va s'intéresser au lancement d'un nouveau parfum sur un positionnement très particulier. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Julia Pérou, c'est la directrice communication et marketing de Good Goût. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et comme chaque semaine, on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et Marie Valogne pour les news. Bonjour Marie.
Bonjour Aurélie.
Alors avec vous, on commence par chauffeur privé qui a lancé une campagne tellement française.
Et oui, c'est une campagne avec beaucoup d'humour que nous propose Chauffeur Privé qui revendique ici son statut d'entreprise française. Des affiches réalisées par l'artiste Blex Bolex sont placardées dans les couloirs du métro parisien et les clichés français sont à l'honneur. On peut y lire par exemple « Tellement français que même les râleurs nous préfèrent »,« Tellement français que même nos impôts sont made in France » ou encore une autre qui est assez drôle « Tellement français qu'on arrive à être numéro 2 en étant les meilleurs ». Évidemment, toute allusion à Uber serait totalement fortuite.
Tiens, et puis une autre affiche qui a retenu votre attention cette semaine, c'est celle de Volkswagen.
C'est une affiche avec une voiture de police et c'est une e-golf, hein, comprenez une golf électrique. Et au-dessus, cette mention, vous avez le droit de garder le silence. Une expression à double sens. L'idée ici, c'est de mettre en avant le partenariat de Volkswagen et des commissariats de Paris, tous équipés de l'e-golf, mais surtout le silence de la voiture électrique. La campagne est signée DDB Paris.
Et puis après la publicité 40 ans enfin, Atoll poursuit sa campagne de séduction envers les quadras.
Et oui, pour ces quarantenaires qui refusent de vieillir, mais qui sont trahis par leur goût pour la musique des années 80, comme Tok Tok, Tears for Fears ou encore Depeche Mode, Atoll et l'agence Romance ont mis au point un dispositif spécial avec Spotify pour faire de la publicité très ciblée auprès des Français nés entre 1968 et 1978. Dès qu'un titre d'une playlist des années 60, 70 ou 80 sera écouté sur la plateforme musicale, eh bien l'auditeur se verra adresser à un spot audio qui l'invitera à se rendre chez un opticien Atoll pour un test de vue gratuit en magasin.
Bon, c'est plutôt bien vu. Bon, allez, plus sérieusement, le numéro 1 mondial de la pub a tremblé cette semaine.
Et oui, on a appris que le patron de WPP, Martin Sorrel, faisait l'objet d'une enquête interne. Le fondateur du leader mondial de publicité est soupçonné d'avoir utilisé des actifs de l'entreprise de manière répréhensible, ce qu'il dément. Selon le Wall Street Journal, le conseil d'administration enquête aussi sur un possible comportement inapproprié, sans donner plus de détails.
Frédéric, ça pose quand même pas mal de questions, tout ce qui se passe en ce moment autour de Martin Sorrel. Surtout qu'il a 73 ans et qu'on lui connaît pas de successeur.
Ben c'est ça. C'est la question principale. C'est que son grand rival, qui était Maurice Lévy chez Publicis, lui, a trouvé, désigné et nommé son successeur Arthur Sadoun. Maintenant, il est un petit peu tout seul en pointe du sujet. Il va falloir peut-être, là, maintenant que les nuages s'accumulent, qu'il s'en préoccupe un peu plus sérieusement, ouais.
Merci Marie, on vous retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Laurent Lachaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur commercial et des partenariats d'ASO, organisateur du Schneider Electric Marathon de Paris. L'occasion de parler justement marketing et communication autour du sport. Et ça passe chez vous par le naming, parce que comme je le disais, vous aviez signé un partenariat avec Schneider Electric, qui donne donc son nom maintenant au Marathon de Paris depuis 2013. Qu'est-ce que ça apporte, un partenariat de ce genre ?
Tout d'abord, le fait de pouvoir avoir un très grand nom pour pouvoir accompagner un événement qui a explosé depuis ces dernières années. Vous savez que la pratique sportive de la course à pied en milieu urbain est quelque chose qui ne s'arrête pas. Rien que cette année, le chiffre qui a été vu dans la presse, 6 millions de femmes qui courent régulièrement, et on a près d'un quart de femmes inscrites sur le marathon, sur le Schneider Electric Marathon de Paris. Donc on a besoin d'une grande marque, de plusieurs grandes marques, mais en tout cas celle-là est assez remarquable. Schneider est implanté dans plus de 100 pays. Il profite d'ailleurs du salon du running pour avoir 5 000
de leurs clients. Que vous organisez aussi en parallèle.
Absolument. Ils ont 5 000 de leurs clients qui viennent voir toutes les nouveautés techniques et technologiques de ce grand groupe qui pèse quand même 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui va nous accompagner encore pour de nombreuses années, car c'est important pour cette société qui est native française mais qui a des collaborateurs dans le monde entier de prouver que Paris reste un endroit très important pour eux.
Ouais. Ah, il y a quand même, on a presque de la chance parce que j'ai vu que le marathon de Barcelone était sponsorisé par les assurances Zurich et du coup il s'appelle s'appelle Zurich Barcelone. Non, sérieusement, où jusqu'où on peut aller comme ça dans le naming, est-ce qu'on perd pas quand même un petit peu de sincérité, je sais pas comment dire, de sincérité quoi du.
Je crois qu'on peut voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Une chose est sûre, c'est que les marques ont une part de plus en plus proactive. Et ce qui nous a beaucoup intéressé avec la démarche de Schneider, c'est qu'ils ont voulu dès le départ que le marathon soit carbon free, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'émissions de carbone à horizon 2019-2020, ce qui pour nous est fondamental. Ça nous a beaucoup mis aussi face à nos responsabilités d'organisateurs. Et je crois qu'on ne peut qu'être tout à fait satisfait que cette grande entreprise appose son nom. Alors c'est vrai que le nom est peut-être un petit peu long, mais en tout cas, on s'y habitue plutôt très bien. Et je crois que bon, effectivement,
et les fans, ils l'appellent comme ça, les gens, ils l'appellent comme ça aussi.
Les gens viennent courir globalement le marathon, mais c'est vrai qu'ils ont petit à petit eu l'habitude de voir la marque Schneider Electric présente et surtout comprendre pourquoi Schneider, notamment, fait un très gros effort sur la parité homme-femme. Vous savez que c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Il y a un concept qui s'appelle He for She, qui est notamment porté aussi par ISO dans toutes les démarches qu'on fait, et Schneider est complètement à la page dans ce domaine-là.
Comment on fait pour faire sa place au milieu de tous les marathons qu'il y a? Bon, Frédéric parlait de Barcelone, mais il y a New York, il y en a plein d'autres. En fait, il y en a presque partout maintenant des marathons.
C'est une pierre angulaire très importante. Vous avez raison de le signaler. On a la chance d'avoir, et soyons peu chauvins là-dessus, la plus belle ville du monde. Et le slogan du marathon de Paris, c'est courir dans la plus belle ville du monde. Ça, c'est le point numéro un. Vous savez que maintenant, Paris va être également une terre très importante parce que les Jeux Olympiques de 2024 sont au rendez-vous. Et le marathon sera évidemment un emblématique rendez-vous pour pouvoir, grandeur nature, avoir un test pour faire courir plus de 50 000 personnes dans les rues de Paris.
Et comment vous communiquez justement pour attirer toutes ces 55 000 inscrits là?
Alors, différentes choses. On a un traitement à l'année qui est de plus en plus ambitieux. On lance une nouvelle base qui s'appelle Time 2, qui est en fait un réceptacle où on va proposer aux gens tout un tas de services avec des plans d'entraînement qui vont être extrêmement sophistiqués, mais également conviviaux pour permettre aux gens d'être en réseau les uns avec les autres et de pouvoir justement bénéficier pour, quand ils seront là à pied d'œuvre pour courir le marathon, être que dans le plaisir et dans le bonheur de pouvoir partager entre eux et de vivre leur expérience de manière extrêmement intense.
Et alors, il y a une dizaine d'années, on a retrouvé un papier de l'Express qui disait que le marathon de Paris était encore très très loin en termes de sponsoring de Londres et de New York, qui sont des géants absolus en la matière. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Est-ce que Paris rattrape son retard, entre guillemets?
Vous aviez tout à fait raison de signaler que Schneider Electric nous a donné un méga coup de boost et en fait nous a permis de pouvoir franchir un certain nombre de barrières. On a la grande chance d'avoir récupéré ASICS, qui est une marque vraiment de tout premier plan technique, qui est ce qui c'est le mieux dans la quintessence de la production des chaussures techniques et de tout le matériel pour courir. Et avec ces deux marques-là, on a vraiment rattrapé notre retard et on est dans le top 3 des marathons mondiaux aujourd'hui.
Alors, on en parlait vite fait tout à l'heure, mais vous organisez en même temps le salon du Running Porte de Versailles. J'ai vu que vous réfléchissiez aussi à peut-être faire des forfaits incluant des hôtels, des expériences clients un peu plus larges. La diversification, c'est un passage obligé?
C'est, je crois, aujourd'hui, ce qui fait que le marathon s'étend beaucoup plus qu'à être une simple épreuve d'une journée. C'est quelque chose pour lequel on se prépare. Vous avez raison de signaler que le salon du running va accueillir un peu moins de 100 000 personnes pendant 3 jours, à la fois des coureurs, mais aussi tous les accompagnants. Ces gens-là, ils vivent Paris à l'heure du 2.0 pour pouvoir se préparer à leur voyage, pour pouvoir échanger. Et on voit s'éloigner justement un petit peu l'image négative qu'on a un peu traînée ces dernières années avec le spectre du terrorisme. Et heureusement, on touche du bois parce que Paris mérite d'avoir un marathon de cette ampleur-là.
Et alors, j'ai vu aussi que par exemple à New York, pour faire le marathon de New York, c'est un package complet, c'est-à-dire que on a le billet d'avion obligatoire, les nuits d'hôtel obligatoires, etc. C'est pas le cas à Paris. Est-ce que ça peut être un jour le cas à Paris? Il faut être super connu pour faire ça.
Alors, il est vrai que New York, parce que New York a le prestige qu'il a, a en place un numerus clausus, c'est-à-dire qu'il faut être dans des listes d'attente avec des tirages au sort. Tout ça est un petit peu compliqué, mais effectivement, les tour opérateurs sont aussi une manière de pouvoir acheter des places quand on n'a pas la possibilité de faire cette fameuse loterie. Et donc, tout est inclus et évidemment beaucoup plus cher. On a des systèmes beaucoup plus accessibles pour Paris pour pouvoir bien courir, mais on peut aussi, tout le charity business a également beaucoup apporté au fait de pouvoir acheter des dossards en faisant une œuvre caritative et en donnant de l'argent pour pouvoir faire le bien, et elles sont très nombreuses, ces associations, pour pouvoir permettre de pouvoir courir en ayant aussi la main sur le cœur.
Et 55 000 inscrits à 100 euros en moyenne le dossard, plus le sponsoring, plus le naming, c'est rentable le running?
Alors le running est une organisation qui finit par être à peu près rentable, mais vous savez qu'on a également d'autres grands marathons qui sont effectivement moins, avec moins de monde. On a Lyon, on a Marseille, on a également le marathon de Barcelone, donc, et on a le marathon du Mont-Saint-Michel. Enfin, on se développe. Et puis on a des courses aussi intermédiaires. On a des 20 km, on a le semi-marathon de Paris, on a des 10 km. Mais vous voyez bien que pour toutes ces organisations, il faut avoir une organisation solide et structurée pour pouvoir justement permettre d'avoir la meilleure qualité de service. Ce qu'un coureur vient chercher aujourd'hui sur une course ou une coureuse, c'est effectivement tout ce qui se passe avant, une fois qu'on a son dossard, mais après, que les ravitaillements soient au top, qu'on ait un service à l'arrivée pour pouvoir évacuer et se changer dans les meilleures conditions. Donc c'est tout ça ce que la garantie d'ASO vient apporter à tous ces coureurs.
Merci Laurent Lachaud, directeur commercial des partenariats d'ASO, organisateur donc du Schneider Electric Marathon de Paris.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business. Hebdo.com, l'édito.
Et cette semaine, on retrouve notre chroniqueur masqué, Joe Lapompe.
Joe Lapompe, qui va nous parler de foule et d'imitation de foule, ou en tout cas d'apparence pas très originale, quoi.
Oui, alors cette semaine, j'ai remarqué une publicité pour Coca-Cola qui a été primée au festival des Dubai Lynx, qui a reçu la médaille d'or, qui est la plus haute distinction en print dans cette compétition. Et ça représente, alors la publicité représente un gros plan d'une boisson pétillante, et en fait quand on y regarde en deuxième lecture, on se rend compte que c'est pas des bulles, mais c'est une foule qui assiste à un concert, une foule qui est réunie. Et le problème, c'est que l'originalité va faire pchit, puisque ça a déjà été fait. Un rapide passage dans mon placard à archives m'a permis de trouver une publicité pour une autre boisson pétillante. C'était pour la marque Guinness, pour une bière, et ça avait été fait il y a déjà quelques années, il y a 10 ans exactement.
Et puis alors, autre redites, ce sont des dents qui sont nettoyées par un vrai laveur de carreaux.
Oui, alors j'ai vu ça aux États-Unis, encore une campagne qui a été primée dans un festival de créativité aux États-Unis, oui. et donc ça présente un laveur de carreaux, laveur de vitres, qui est monté sur une affiche. Enfin, c'est un mannequin, c'est pour de faux, mais on a l'illusion qu'il y a un vrai laveur de carreaux qui est monté dessus et qui est en train de nettoyer une bouche. On voit des dents en fait qui sont jaunes, et le laveur de carreaux est en train de les nettoyer. Alors le problème, c'est que ça avait déjà été fait pas une fois mais deux fois, et ça avait déjà été fait aux États-Unis également pour une autre clinique dentaire, et ça avait été fait aussi en Israël en 2006 pour une marque de chewing-gum, chewing-gums qui aident à nettoyer les dents.
Merci Joe Lapompe, on vous retrouve bientôt dans Hebdo.com.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business. Hebdo.com. Le Zoom.
Le zoom du jour autour d'un contre-pied assez étonnant qui nous a interpellé avec Frédéric cette semaine, c'est dans la parfumerie de niche avec la maison Italibre d'Orange qui va sortir cet automne un parfum issu de déchets organiques. Alors pour en parler avec nous, Hélène Capgras, bonjour. Vous êtes la fondatrice de Brain for Beauty, et puis Emmanuel Ferry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général d'Ogilvy Paris. Alors d'abord, première question, est-ce que ce parfum va vraiment sortir ou c'est un énorme coup marketing et on est en train de se faire avoir?
Alors, ce parfum va vraiment sortir. Il va sortir à l'automne. Par contre, c'est un processus. Donc, c'est un processus qu'on a enclenché. Et un petit peu à l'instar des producteurs télé, on doit faire entrer des parties prenantes, puisque c'est un parfum qui va naître en fait, des déchets de l'industrie du parfum. Donc pour ça, il faut qu'on aille récupérer les déchets de l'industrie du parfum. Donc c'est comme un appel à candidature.
Alors justement, c'est vous qui orchestrez la campagne autour de ce parfum, avec un joli film d'ailleurs qui parle du cycle de la nature. Vous pouvez peut-être nous en parler un peu?
Oui, alors en fait, c'est une idée toute simple et qui est comme une provocation un petit peu à l'industrie du luxe et du parfum, qui est une industrie dans laquelle les images sont très déréalisées. C'était une manière de ramener, en fait, la nature, la décomposition, et l'idée que, en fait, le parfum naît quand même d'éléments naturels. Et donc, cette idée qu'a apporté Étienne de Sfart avec l'État libre d'Orange, qui était de se dire, si on faisait un parfum qui serait fait avec les restes de l'industrie du parfum, en fait, c'était une manière pour nous de montrer cette nature qui reprend ses droits dans cette industrie, qui a pas tellement envie de la regarder, forcément.
Frédéric.
Hélène Capgras, c'est quand même un parfum pour le moins particulier. C'est une marque qui est un peu habituée à faire des produits un peu spéciaux, concrétion.
Celui-là s'appelle Ayam Trash, on l'a pas dit.
Celui-ci s'appelle Ayam Trash, il y a eu Charogne, etc. Et vous êtes spécialiste de ce marché. Il y a vraiment des gens qui achètent ça?
Je pense que ce qui caractérise la clientèle de ces marques qu'on a tendance à agréger sous le nom de marque de niche, c'est des gens qui sont en recherche d'émotions fortes, à la fois olfactives, mais aussi mentales, donc avec des noms qui vont être un peu transgressifs, et surtout derrière une narration particulière, et ils viennent chercher des choses très segmentantes plutôt que des odeurs et des storytelling très immédiats.
Justement, sur le plan de l'odeur, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Moi, je les connais pas, ces parfums. Mais est-ce que l'odeur est aussi disruptive, si on peut dire, que le nom du parfum?
En tout cas, je ne l'ai pas senti, mais ce qui fascine quand même toujours les parfumeurs, c'est là où ça bascule entre l'excessif, le gênant, et tout d'un coup quelque chose qui devient délicieux. On avait l'habitude d'aller chercher ça dans les matières premières animales, mais maintenant c'est complètement proscrit. Donc d'aller les chercher dans du végétal, c'est quelque chose qui doit stimuler vraiment le nez du et le cerveau du parfumeur. Et après, c'est son talent qui va faire que ça va être à la fois un petit peu transgressif et attirant.
Alors, ce qui est intéressant, pardon, sur ce sujet-là, c'est qu'en plus, c'est un vrai processus de création. Donc, au-delà du process, c'est que aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'on va atterrir. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça n'a jamais été fait. Ouais. Et donc, en fait, les odeurs, quand on est en deuxième, je ne sais pas comment on dit, distillation, en fait, quand on reprend les odeurs d'éléments qui ont déjà été utilisés, en fait, elles sont légèrement altérées ou différentes, et donc on va être dans un nouveau monde, en fait, avec ce parfum, puisque ça va pas être la vraie odeur première, ça va être une odeur de deuxième main, en fait. Et donc, en ce sens-là, on va arriver vers un territoire inconnu.
Il y a un côté vendange tardive aussi qu'on peut trouver dans la gastronomie, la pourriture du Roquefort, la pourriture noble d'Yquem. Enfin, c'est très français aussi d'aller chercher la bascule entre le dérangeant et le précieux.
Alors justement, Emmanuel Fauric, comment est-ce que vous faites pour rendre un produit qui s'appelle Trash à la fois sexy et glamour?
Alors,
avec des petits verres.
Avec des petits verres au milieu dans la campagne.
En fait, c'est d'abord, il y a un talent derrière incroyable qui est la photographe réalisateur qui est Inès Dillmann qui met ça en scène de manière.
Les images sont très belles.
Merveilleuses. Et puis en fait, c'est l'idée en fait, c'est-à-dire que trop souvent l'industrie du parfum apporte des images. Ce qui est intéressant là, c'est d'apporter un imaginaire. Et donc c'est bien l'univers qui est autour, qui est merveilleux et qui va rendre ça sexy. Puis c'est l'idée. Finalement, c'est cette idée. Est-ce que on est assez curieux pour tenter ce parfum et assez brave pour le porter après?
Ouais, c'est ça, parce que ensuite il faut pouvoir le dire quand même qu'on porte un parfum comme ça. Il n'y a pas un élément un peu limitatif dans l'histoire, qui on a presque un peu l'impression que c'est un plaisir de créateur, et là en l'occurrence en plus de publicitaire, mais que dans la réalité c'est quand même pas évident, quoi.
Disons que c'est vrai que c'est pour des gens qui n'ont pas peur de se distinguer, en tous les cas. Ça, c'est évident, puisque c'est une forme de...
Pouvoir dire je porte du white, voilà. du trash ou de la charogne.
Mais derrière, l'idée qui est très forte, très forte, c'est quand même qu'on est dans une... Aussi, ça interroge la société de consommation. Derrière l'industrie du parfum, c'est la société de consommation. C'est vrai qu'on est dans une société qui jette énormément de matière, mais qui jette les gens, qui les utilise. Et finalement, c'est une manière de dire aussi que c'est le regard qu'on porte sur ce qu'on jette qui est important, puisque... Et pas forcément le fait d'être jeté. Et c'est vrai que le film dit... I am trash but not wasted. Et c'est pas parce qu'on est jeté qu'on est forcément gâché. Et donc c'est un peu ça que ça interroge aussi. C'est cette idée que on peut repartir et que tout n'est pas fini quand on est jeté.
Et la Mnka, grâce à un succès commercial, ce genre de produit?
Bah, disons que ces parfums pour initiés qui étaient dans les années 80-90 une toute petite partie du marché, maintenant sur le marché global de la parfumerie, c'est la famille qui connaît les plus forts taux de croissance par rapport à un marché mainstream qui est plutôt plat, plutôt flat. C'est vraiment le gisement de lancement et de création où il y a encore des taux de croissance à deux chiffres, et c'est pour ça aussi que ces jeunes marques ont émergé il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, elle commence à se faire racheter par les grands groupes, parce que c'est vraiment les acteurs qui tirent le marché en ce moment, à l'international, pas seulement en France.
Merci beaucoup Hélène Cabra, je rappelle que vous êtes la fondatrice de Brain for Beauty, et Emmanuel Ferry, directeur général d'Ogilvy Paris.
BFM Business, Hebdo.com, comme un chef.
Et aujourd'hui, nous sommes avec Julia Perroux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice communication et marketing de Good Goût, spécialiste des petits plats bio pour les bébés, vainqueur de la BFM Academy en 2012. Comment est née cette aventure d'abord?
Alors, cette aventure, elle est née sur un constat très simple, qui est un constat de parents, qui était le fort niveau de culpabilisation que la plupart des parents pouvaient avoir à donner des petits pots à leurs enfants. Et voilà, devant ce constat, on s'est dit que on avait la possibilité de créer des produits qui étaient aussi bons que du fait maison et qui donc déculpabilisaient les parents pour concilier à la fois la praticité et le goût.
Alors, comment est-ce qu'on s'adresse à des jeunes parents? Parce que c'est ça votre cible, en fait, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un positionnement particulier pour aller chercher cette cible-là et la convaincre de vous acheter, vous, plutôt que des majors comme Bledina ou autre?
Alors, la catégorie en tant que telle, elle a des fonctionnements assez spécifiques, parce qu'on a un consommateur qui n'est pas acheteur, puisque parents... achètent pour leurs enfants, et accessoirement la cible se renouvelle tous les environ 18 mois puisque nos bébés grandissent. Donc on est dans une démarche permanente de recrutement et de notoriété sur les nouveaux parents pris mi-part, par exemple. Et donc nous on a choisi d'axer toute notre communication, n'ayant pas les moyens des grosses multinationales pour aller toucher ses parents, de s'axer sur le bouche à oreille. Alors après, il y a plein de façons de stimuler ce bouche à oreille, et notamment à travers toute la panoplie de moyens que nous offre tout le digital aujourd'hui, des réseaux sociaux, en passant par le CRM, etc. On s'appuie sur des outils qui sont connus de tous, mais très utilisés par cette cible, et notamment de Digital Mom, qui est une cible très identifiée et très influente. Et puis l'autre pan, et je l'ai dit un peu en introduction, mais c'est que notre grande fierté, c'est que nos parents, ils aiment bien finir les plats de leur bébé, en tout cas quand c'est les nôtres. Et du coup, un gros levier pour communiquer et les convaincre, c'est de leur faire goûter, en fait, tout simplement.
Alors en plus, vous avez un soin tout particulier au packaging. On a parlé de craft il y a pas longtemps dans cette émission. Vous êtes en plein dedans avec quelque chose de très épuré. Comment est-ce que vous concevez ces packagings et quel message est-ce qu'ils font passer?
Alors, on a pris le contre-pied depuis le début de s'adresser aux parents et uniquement aux parents. Donc on a des packagings qui, ça nous a été d'ailleurs parfois reproché, qui ne sont pas tellement dans un univers très enfantin, voire potentiellement un peu infantilisant pour certains. Donc on a ce parti pris de communiquer sur des choses très brutes qui font envie aux parents. On travaille pour ça avec une agence qui s'appelle CBA et qui nous accompagne depuis quasiment le début, avec voilà ces vrais partis pris très forts d'avoir des angles de communication qui sont pas du tout sur la cible de consommation.
Alors j'ai vu moi sur votre site internet que vous aviez aussi tout un espace un peu blog avec des idées d'activités pour les enfants, des comptines, des conseils alimentaires, ouais. Mais qu'il n'y avait pas eu vraiment de mise à jour ces derniers temps. Pourquoi ça marchait pas le côté communautaire ou...
Si, le comité communautaire fonctionne très bien. On aime d'ailleurs à dire et à répéter qu'on a une communauté qui est extrêmement importante, notamment compte tenu de notre taille aujourd'hui. Sur Facebook, on a par exemple plus de fans que Nestlé, qui est le deuxième acteur du marché. Donc on a une communauté très importante qu'on engage d'ailleurs très fortement à travers ces leviers-là. Et le contenu en fait partie. Donc on développe beaucoup de contenu sur l'ensemble de nos supports, notamment en CRM, etc. Et le site est un relais comme un autre. Et il est au fur et à mesure des années, on diversifie ce nombre de supports. Et c'est vrai que du coup, la fréquence des prises de parole sur chacun des supports est un peu moins forte. Mais c'est en tout cas encore un outil qu'on utilise à plein.
Merci beaucoup, Julia Perroux. Je rappelle que vous êtes la directrice communication et marketing de GoodGoo. Merci aussi à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.